Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre internationale de PGRO. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Juste pour vous remettre dans le contexte, vous comprendrez que je suis québécois, vous m'entendez bien. je m'appelle Sylvain Seaborn, Caroline Bouchard, Cyril Bertrand. Il y a plus d'un an et demi, on s'est dit qu'on devrait faire un colloque, une rencontre et avec la France, avec le Québec, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et tout doucement, ça s'est concocté. On a fait une équipe au Québec, une équipe en France. On s'est réunis, on s'est parlé, conférences téléphoniques, etc. Et ça va donner ce que vous allez voir dans ces deux jours-là.
Tout le monde n'entend pas jusqu'au bout?
Vous n'entendez pas? Comme ça, vous entendez mieux. D'accord, parfait. Donc, on a concocté ça avec une équipe France, une équipe Québec, par des téléphones, par des courriels. Écoutez, ça fait plus d'un an et demi. Content de voir autant de personnes, voir que tous les conférenciers, conférencières sont là. on vous souhaite une bonne journée. Je vais laisser la parole à Caroline, qui va vous mettre un peu dans l'ambiance, et ensuite, ça sera Cyril. Merci.
Alors oui, on voulait une belle ambiance, une ambiance Québec-France, parce que Gilles a travaillé souvent en France, alors on souhaitait faire une collaboration avec tout le monde. Et pour la partie où les présentateurs vont démarrer, il va y avoir deux présentateurs, donc un Québécois et un Français qui vont parler. Et il y aura une période de questions. On veut que cette période soit cordiale, une belle ambiance où on pourra échanger avec les présentateurs. Donc, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Et puis, on aura une trentaine de minutes environ selon les présentations qui sera réservée à cette plénière après chaque présentateur.
OK, moi je vais revenir, bonjour, plus sur le côté organisation. On m'a dit que tout le monde n'avait pas encore pris son badge. Est-ce possible? Il y en a? Vous pouvez lever la main? Tout le monde a son badge? OK, donc c'est des gens qui ne sont pas arrivés, OK. Juste en termes d'organisation, donc comme vous l'avez vu, dans le hall d'entrée, sur la droite, se dérouleront les pauses café, l'accueil le matin, pause le matin, l'après-midi et le cocktail de ce soir à 18h15. Pour les repas de midi, que vous sachiez, au niveau du FIAP, il y a une cafétéria. Donc on a dit le nombre que vous étiez, donc normalement ils ont prévu en conséquence, mais ce n'est pas obligatoire de manger ici. Vous pouvez aller dans une restauration à l'extérieur. Mais sachez que le FIAP a une cafétéria où c'est accessible pour vous. Vous dire quoi? Les horaires, vous les avez au niveau du programme. On va essayer de se tenir évidemment au programme, parce que comme vous l'avez vu, il est chargé. C'est deux jours de plénière. C'est un choix que nous avons fait au niveau du comité d'organisation. On a eu un débat atelier, pas atelier. Et comme on trouvait que tous les thèmes étaient intéressants, on a souhaité faire que du plénière pour que tout le monde profite des différents travaux. Voilà, je vous souhaite un bon colloque de deux jours. Et Gilles donc va démarrer. Oui, c'est Gilles Delisle, pardon.
J'étais assis bien tranquille en me disant que j'en avais encore pour 10 minutes à m'énerver, à m'inquiéter, et puis ça commence tout de suite. Vous pouvez peut-être imaginer ce que ça fait à quelqu'un comme moi qui ait eu l'idée il y a longtemps de cette approche qui va nous réunir pendant deux jours, de me retrouver ici face à cette salle très garnie et en essayant de gérer mon stress, je pensais tout à l'heure à un film que malheureusement vous n'avez sans doute pas vu en France. C'est un film québécois, refait par les Américains. Ça s'appelle Starbuck. C'est l'histoire d'un mec qui, dans ses temps libres, contribue généreusement à une banque de sperme. Là, ça arrête. Et qui, un jour, il y a une scène dans le film où il se retrouve à peu près comme moi et il découvre qu'il a 500 enfants. Alors, je suis un peu dans cette position-là, sauf que À vrai dire, j'ai des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et peut-être même une quatrième génération. Alors, c'est très touchant pour moi de me retrouver ici aujourd'hui à démarrer ces deux jours-là avec vous. Je prends la mesure de à quel point la France a été importante dans le développement de la PGRO et je suis tout à fait ravi que ce soit ici qu'on fasse ces deux jours historiques. Je mesure à quel point, au fil de mon existence, ma longue existence, le thème de la famille reconstituée a été un thème important. Et j'ai à peu près une famille française, j'ai certainement une famille québécoise. Et j'avais jadis une famille gestaltiste, et j'ai eu envie de l'enrichir par une autre famille, la famille de la psychanalyse des relations d'objets. Donc, je suis dans cette énergie de famille reconstituée et je suis tout à fait content de voir ces deux familles en train d'en faire une pendant ces deux jours, les deux jours qui viennent. Je connais beaucoup de personnes dans la salle. J'en ai embrassé plusieurs ce matin. S'il se trouve que nous nous soyons déjà embrassés quelque part au cours des 30 dernières années, et que je n'ai pas fait mine de vous reconnaître. Donc, si nous nous sommes embrassés au cours des 30 dernières années et que vous avez envie de renouveler l'expérience, vous serez les bienvenus à la pause. Si ça n'est pas encore fait et que vous avez envie de tenter l'expérience, vous serez aussi bienvenus à la pause. Je veux d'abord remercier les personnes qui ont été nommées tout à l'heure et toutes celles qui ont eu l'idée et qui ont travaillé véritablement d'arrache-pied depuis un an et demi à monter ces deux journées-là. Non seulement je veux les remercier de les avoir organisées, mais je veux les remercier de m'avoir invité. Il n'était pas indispensable que je sois là. Vous allez le voir pendant deux jours. Vous allez entendre des PGRistes de très haut niveau. Vous apportez, je le pense, du matériel théorique, clinique, scientifique de très haute tenue. Moi, pour ma part, je me réjouis tout de suite à l'avance de ce que je vais apprendre. Vous imaginez bien, si vous connaissez les modalités de formation de la PGRO, largement inspirées des modalités de formation de la Gestalt-thérapie, chacune des personnes qui vont prendre place pour vous parler de leurs travaux, je les connais très bien. Avec chacune d'elles, j'ai souvenir d'au moins un expérientiel à un moment donné, à Magog, en Dordogne, en Grèce, à Québec. J'ai souvenir de quelque chose, d'un moment, d'un instant. Et si je me permets de contacter ce moment-là, je retrouve à chaque fois une grande émotion que je contiens, heureusement, mais le souvenir d'une rencontre avec une personne de qualité qui, comme moi, se débat pour se parachever et pour arriver à faire profiter les personnes qui auront la chance de travailler avec elle d'une rencontre pleine, sincère, authentique et énergisante. En pensant à ce que j'allais vous proposer, je me suis véritablement demandé qu'est-ce que je peux apporter à ces gens-là. Je pense que vous êtes nombreux à bien connaître la PGRO. Mais peut-être pas tous. Alors, je vais faire un léger sondage. Levez donc la main les personnes qui ont eu une formation complète, approfondie en PGRO, s'il vous plaît. Ah, quand même. Les autres, s'il vous plaît, levez la main. OK, très bien, OK. Ah, je vais me sentir utile. Il y a donc dans la salle un bon nombre de personnes qui connaissent bien les concepts de base de la PGRO. Parmi celles-là, quelles sont celles qui, malgré tout, ont envie de m'entendre en parler à nouveau? Merci. Alors, effectivement, je vais vous parler des essentiels de la PGRO. Je me suis dit que ça pouvait être utile parce que vous allez entendre parler de thèmes assez pointus dans plusieurs cas, et ce serait bien que vous ayez un minimum de cadre de référence pour pouvoir les apprécier. Et je vais aussi, puisqu'il se trouve que je suis probablement le plus grand dépositaire de l'histoire de la PGRO, parce que je suis là depuis les débuts de la PGRO, plusieurs personnes m'ont dit bien, ce serait bien qu'on puisse entendre quelle est l'histoire de cette approche-là, comment elle s'est construite, quelles ont été les grandes lignes, les grandes époques de l'histoire. Alors, je vais commencer par l'histoire et ensuite je vous parlerai de l'essentiel de cette théorie-là. Donc, les grandes lignes de l'histoire, je me sens un peu comme grand-papa, raconte-nous notre histoire. Et je trouve qu'il y a une certaine importance à savoir d'où vient l'approche qu'on pratique. Parce que, de la même façon que les personnes que nous cherchons à aider doivent visiter leur champ 4, les PGRistes ont compris, les autres disent « c'est quoi ça ?» Nous aussi devons avoir une certaine prise sur notre propre histoire parce qu'elle porte à la fois des zones de richesse et de fertilité, mais elle porte aussi un certain nombre de limites et d'écueils. Et si on ne les connaît pas, nous risquons de reproduire certaines des choses que nous avons voulu corriger. Il est très facile de glisser dans la doctrine et dans le dogmatisme et dans une sorte de prétention à la supériorité, ce qui, pour moi, est toujours plus ou moins le prélude à quelque chose qui va se frelater et se flétrir. Alors, je vais diviser ça en quelques grandes tranches. D'abord, une préhistoire. Ça, c'est moi, plus jeune. Dans cette préhistoire qui va, en gros, là, de 1981 à 1988, je suis seul formateur au CIG à Montréal et j'enseigne et j'essaie d'intégrer une gestalt-thérapie classique que j'ai apprise de Irving et Miriam Poster, de Laura Pearls, d'Isadore Fromm et d'autres. Et j'essaie avec vraiment avec beaucoup d'application de traduire dans ma pratique ces grands principes, ces préceptes et ces choses que j'ai vues faire, que j'ai vu d'excellents gestaltistes faire en situation de formation de groupe. Et au fur et à mesure que ma pratique se développe, je reçois de plus en plus, comme peut-être beaucoup d'entre vous, je reçois de plus en plus des personnes qui ont des pathologies de la personnalité et avec lesquelles la puissance du travail dans l'ICI maintenant a presque toujours quelque chose de tout à fait libérateur, d'énergisant, une espèce d'expérience, presque une satori. Et puis, je les vois progressivement, de semaine en semaine, restaurer l'ancien mode de fonctionnement. Et je deviens préoccupé de ne pas avoir dans la gestalt-thérapie telle que je la comprenais, il se peut que je l'ai mal saisie, que des parties de la gestalt-thérapie m'aient échappé, mais telle que je la comprenais, il manque un certain nombre de choses et je pressens ça plus que je peux véritablement l'analyser. Alors, dans ces années-là, je me remets à l'étude de la psychopathologie, des grandes théories du développement, puisque de l'avis même du plus grand exégète de Goodman, qui à l'époque était Isadore Fromm, la gestalt-thérapie n'a pas de théorie du développement. Que faire pour traiter des pathologies qui sont essentiellement développementales? Alors, comment procéder pour arriver à quelque chose de ce côté-là? Cette espèce de préhistoire prend fin à peu près en 1989, et je vais voir une phase de gestation à peu près de 1989 à 1996, où là, le sentiment d'un manque et d'une incohérence, d'un certain nombre de contradictions entre ma propre pratique clinique et mes enseignements, ça va commencer à me frapper davantage. Et je constate à l'époque que quand je fais, par exemple, des démonstrations ou des expérientiels en groupe, les questions qui me sont adressées sont fort stimulantes et je constate que pour répondre pleinement, je dois sortir du cadre gestaltiste. Je dois invoquer et évoquer des réalités qui n'ont, à vrai dire, pas de place formelle dans l'appareil conceptuel de la gestalt-thérapie. Et des élèves me le font remarquer. Prenons le temps de célébrer cette singularité de la gestalt-thérapie et maintenant de la PGRO, qui fait que quand on est en formation avec quelqu'un, on voit cette personne-là travailler, elle peut travailler avec nous, nous comme clients, et je considère ces instants-là comme des moments très riches d'épreuves de réalité. C'est-à-dire, ce qui est enseigné est-il pratiqué? Est-ce que le thérapeute fait ce qu'il dit qu'on doit faire? En général, non. En général, il fait ça plus ou il fait ça moins. C'est jamais tout à fait ça. Tant et si bien que il y a quelques mois, accueillant un groupe de première année au CIG à Montréal, je me suis étonné de leur dire que s'ils étaient venus pour apprendre la PGRO, c'était une très mauvaise idée parce que la PGRO, ça ne marche pas. Ce qui a créé une certaine réaction d'étonnement. Et je me suis empressé d'ajouter cependant que vous pouvez faire que la thérapie fonctionne. Mais la PGRO en elle-même, elle ne marche pas. Elle ne peut être efficace que dans la mesure où elle est portée, incarnée, intégrée par une personne qui sait en déployer toutes les richesses. Et là, donc, je constate que je célèbre pour ma part aujourd'hui les 25 ans de mon début en France. La première fois que je suis venu donner de la formation en France, c'était en 1989. Je pense qu'il y a ici quelques ancêtres qui étaient là. Et en 1989, c'était à l'invitation de Serge Gingère. Et je me souviens très bien de ma première impression quand Serge est venu me chercher à l'hôtel pour m'amener à Couperdry. J'étais déjà passablement stressé et anxieux à l'idée de... J'allais faire un expérientiel pendant 3 jours, expérientiel commenté. Et bon, je travaille avec des groupes de 15 à 16 personnes. Et dans la voiture, j'apprends qu'ils sont 29. Et Serge conduisait très vite et il avait cette singularité de conduire avec les genoux. Parce qu'il avait besoin de ses mains pour parler. Je devenais de plus en plus inquiet. Et en plus, il m'expliquait toute la situation politique de la gestalt-thérapie en France. J'avais vraiment les neurones au bord de l'éclatement. Et je me souviens que quand on s'est rendu, et quand je suis sorti de la voiture, j'ai réussi, je ne sais pas trop comment, probablement qu'un psychiatre appellerait ça un épisode de dissociation. J'ai réussi à évacuer cette inquiétude-là pour rentrer dans la salle, m'installer et commencer à travailler vraiment à froid. Et ça a été, ces 3 jours-là, pour moi, un assez grand choc culturel parce que je rencontrais des vies psychiques, des organisations, des façons de faire, des réflexes que je ne connaissais pas. Et j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Donc, je célèbre le 25e anniversaire de mon début d'intervention en France. 1991, dans cette époque de gestation, ce qui était jusque-là une espèce d'insatisfaction ou une sorte d'incohérence pressentie se transforme en une véritable réflexion dans un cadre doctoral avec un souci de rigueur épistémologique pour voir à pallier certaines des lacunes que, dans mon imperfection à moi, je concevais être des freins dans l'utilisation de la gestalt-thérapie. Et puis, en 1992, commence l'une des plus belles aventures de ma vie de psychologue, le célébrissime séminaire théorico-clinique de Paris. Ça commence en 1992 et il y a deux groupes, un groupe de 8, un groupe de 12, et je vois certaines des personnes dans la salle avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, ce séminaire théorico-clinique. Pendant une dizaine d'années, je venais 4 fois par année, 3 jours à chaque fois. Et ensuite, pendant 5 ans, 2 fois par année. Et on va voir un petit peu plus loin qu'on a arrêté le séminaire théorico-clinique après un certain temps. Mais ces 15 années-là ont été véritablement les 15 années les plus riches de ma vie professionnelle parce que je pouvais mettre à l'épreuve dans un autre contexte culturel avec d'autres réflexes théoriques, avec d'autres, une autre forme de rigueur, je pouvais mettre à l'épreuve ce que j'élaborais dans mes études, mes recherches doctorales au Québec et que je testais également avec mes collègues québécois. Va suivre une phase de construction qui, elle, s'étend en gros de 1996 à 2006, donc à peu près 10 années d'une très grande richesse et fertilité tant sur le plan théorique, scientifique que clinique. D'abord, en 1996, c'est la soutenance doctorale. Alors, c'est la destination de plusieurs années de travaux, de recherches, d'analyse des textes fondamentaux de la gestalt-thérapie au moyen d'un logiciel d'analyse sémantique pour essayer de comprendre un peu mieux la structure de la pensée de Paul Goodman. À partir de 1996, à la demande d'ailleurs des gestaltistes de France, nous allons commencer au CIG à offrir un 3e cycle de formation. Et ce 3e cycle est donc demandé par des Français qui, ayant une formation en gestalt-thérapie, veulent apprendre ou veulent ajouter à leur formation cette chose qu'on appelle déjà la PGRO, psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. Et depuis 1996, il y a eu donc 12 promotions de troisième cycle. Et je parlais ce matin avec Jean-François Gravouille qui me disait qu'à vue de nez, il estime qu'en France, il doit y avoir autour de 600 personnes qui ont été formées à la PGRO. Et au Québec, lors d'une cérémonie il y a 4 ans, j'avais calculé qu'il y avait 562 personne qui avait été formée, donc on dépasse les 1200 maintenant. Dans ces années-là, c'est également la publication du premier livre que j'ai affiché à l'écran tout à l'heure. Entre ces deux livres-là, c'est presque toute l'histoire de la PGRO. La publication de ma thèse, intégralement, la relation d'objets en gestalt-thérapie, c'est 1998. 1999, un événement très important, me semble-t-il, non seulement pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais un événement assez important pour l'avancement de la PGRO et pour son articulation, ce serait beaucoup dire, mais disons pour l'établissement de relations de bon voisinage entre la PGRO et la gestalt-thérapie française. C'est variable selon les écoles, mais en 1999, donc, je suis invité à prononcer la conférence d'ouverture du colloque international de gestalt francophone du Collège français de gestalt-thérapie. Et j'intitule, de manière légèrement provocante, « Les pièges de l'orthodoxie ». Je perçois à l'époque que le collège incarne une certaine orthodoxie et pour moi, orthodoxie, ce n'est pas un vilain mot. Il y a une noblesse et une dignité à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est la volonté, le pari fait sur exploiter autant que faire se peut une proposition théorique et clinique et ne pas renoncer trop légèrement quand on bute sur des difficultés ou sur des manques. Et donc, il y a une réelle distinction à l'orthodoxie. Cependant, je crois qu'à l'époque, que cette volonté de poser la gestalt-thérapie comme étant unique, supérieure, impossible à mailler avec quoi que ce soit, nous prive collectivement de la possibilité de faire profiter des approches voisines de certaines des choses que la gestalt-thérapie produit et pour lesquelles elle est d'une efficacité redoutable. Personne d'autre que les gestaltistes, je crois, n'arrive à produire rapidement, dans un instant, dans une immédiateté, une conscience réelle, incarnée et immédiate de la pleine expérience. Je dirais que les gestaltistes, à mon avis, sont les ancêtres de la pleine conscience et que leur volonté d'augmenter la capacité de conscience est probablement le plus bel héritage que la gestalt-thérapie pourra nous léguer. À partir de 1999, nous aurons 4 formations de superviseurs. La première formation de superviseurs a lieu ici en France, à Montpellier, au Hameau de l'Étoile. Opération stimulante, chaotique, avec, je pense, 16 superviseurs, 16 supervisés. On doit les tenir séparés, parce qu'on veut que les superviseurs puissent parler de leurs supervisés entre eux, ce qui vexe les supervisés qui se sentent mis à l'écart. Très intéressant. Depuis, il y a eu 4 formations de superviseurs, ce qui fait qu'il y a actuellement, en Québec, au Québec et en France, une bonne 60aine de superviseurs didacticiens. C'est une forme particulière de supervision, superviseur didacticien, capable, dans le cadre d'une supervision, de transmettre l'essentiel et, plus que l'essentiel, de transmettre le cœur de la, psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. En 2001, un autre moment tout à fait marquant pour moi, certainement, l'invitation à prononcer la conférence d'ouverture de Changer. Et cette conférence, je l'intitule « Le dialogue en psychothérapie ». Je n'ai jamais pu mieux faire que ce jour-là. Quelque chose dans la salle, dans la qualité de questionnement, dans l'énergie d'un démarrage, aussi dans l'affection très grande que je portais aux créateurs de l'école, Yves Mérès et Pierre Vandamme à l'époque, quelque chose donnait à ce moment-là une énergie que je n'ai jamais retrouvée de cette manière-là depuis. J'ai souvent écrit sur le dialogue en psychothérapie, mais quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu as ou est-ce que vous avez écrit quelque chose sur le dialogue en psychothérapie? » je les renvoie à ce texte-là parce que pour moi, je ne saurais mieux dire que ce que j'ai pu dire ce jour-là. Et le sentiment que j'avais, c'était que la conférence en elle-même prenait la forme d'un dialogue. Alors, un moment très important qui m'a permis véritablement d'aller plus loin dans ma compréhension du dialogue herméneutique en psychothérapie. Un autre moment important, périlleux, après, il y en a qui y étaient, Jean-Marie Robin et moi, notre relation a commencé, comme souvent les relations amoureuses, par une bagarre. Jean-Marie Robin a longtemps été passablement critique des premiers travaux que j'ai publiés qui concernaient l'application, le développement d'une certaine grille de compréhension de la psychopathologie dans un vocabulaire gestaltiste. Alors, il s'était montré assez virulent dans sa critique et après un certain temps, Marie Petit s'est mis à jouer les casques bleus entre nous. Et on a pu se rencontrer et à un moment donné, Jean-Marie Robin était de passage à Montréal et il a eu la gentillesse, la générosité de m'envoyer un mot et de dire « Il me semble qu'on s'est assez prouvé l'un à l'autre qu'on était intelligent. Si on se rencontrait pour se parler. » Alors, je me souviens d'un repas pris avec Jean-Marie avec un immense plaisir à constater nos différences très nettes et pourtant le respect intégral que nous pouvions avoir l'un pour l'autre et la curiosité d'essayer de comprendre ce que l'autre faisait. Tant et si bien que ce jour-là, ça doit être au début des années, à peu près en 2000, nous avons décidé que pendant quelques années, chacun de nous enverrait à l'autre tout ce qu'il écrit pour commentaire. Alors, il m'a envoyé des textes très stimulants sur la théorie du chant, sur Brentano, sur Ricœur. Et je lui ai envoyé des textes sur ce que je faisais comme intégration en PGRO. Je lui ai même envoyé jadis ma thèse pour qu'il puisse la lire et la commenter. Donc, pendant très longtemps, Jean-Marie, vous le connaissez, Jean-Marie Robin, j'imagine, oui. Jean-Marie Robin et moi, on s'est échangé des écrits, on les a commentés, et ça a été pour moi, et je pense que la PGRO en a profité, ça a été véritablement une meilleure plongée dans la pensée gestaltiste pure, de la pure gestalt phénoménologique, et j'estime que ça a amélioré, je pense, notre présence dialogale dans nos interventions cliniques. Sauf que, encore là, après un certain temps, nous avons dû constater que non seulement nous étions tous les deux intelligents, du moins chacun de nous aux yeux de l'autre, et que nous savions écrire, mais que, pas sûr qu'il y a tant de différences que ça, quand deux thérapeutes apparemment différents dans leur théorie ont à travailler avec des vrais clients. Alors, nous avons fait ce pari de dire, OK, on se réunit pendant 3 jours à Arcachon. Jean-Marie, tu amènes 10 de tes meilleurs élèves, ta garde rapprochée. J'amène 10 de mes meilleurs élèves, ils sont presque tous là. Et pendant 3 jours, le matin, on fait de l'expérientiel. Au choix, ils peuvent travailler avec toi ou avec moi. Et l'après-midi, d'abord, on filme tout ça. Et l'après-midi, on analyse tout ça. Et là, on vérifie si nos élégantes supputations théorico-cliniques tiennent la route quand on travaille pour vrai avec des vraies personnes. Je vous le conseille. C'est périlleux, mais c'est extrêmement enrichissant. Alors, essentiellement, nous avons constaté, Jean-Marie et moi, que dans un certain créneau de difficultés, je devais faire comme lui. Et inversement, dans un certain autre créneau de difficultés, il devait faire comme moi. Mais que dans des situations moyennes, il y avait des différences, assez nettes. Mais qu'à un certain niveau, il y a une sorte de convergence de sagesse clinique à laquelle il est difficile de rendre justice dans des textes écrits. Alors, vraiment, excellent souvenir de confrontation théorique et clinique avec une personne de bonne foi, éclairée et bien informée. 2002, première journée d'études de la PGRO, ça a lieu à Montpellier. Ah oui, au fait, à Arcachon, on a tout filmé pendant 3 jours, et la personne qui filmait avait oublié de mettre le son. C'est très intéressant d'un point de vue chorégraphique. En 2002, journée d'études de Montpellier. Là, on a tout enregistré et on n'a pas oublié de mettre le son. Mais on n'entend rien, on n'entend que les cigales. Le son est très mauvais, on n'a pas pu l'utiliser. Alors, nous espérons qu'aujourd'hui, on va avoir une bonne qualité de son. Journée d'études de Montpellier 2002, c'est la première fois que, je pense que c'était 2 jours, avec des présentations dans des ateliers. Il y a quelques Québécois, une majorité de Français, bien entendu. 2002, pour la revue Gestalt, j'écris un article qui s'appelle « De la Gestalt-thérapie à la PGRO », dont je vous recommande la lecture si vous voulez avoir une saisie vraiment des considérations épistémologiques et cliniques qui m'amènent à passer de la gestalt-thérapie pure à la PGRO. Et c'est vraiment quand même assez bien documenté. Et si vous vous intéressez à l'histoire de la PGRO, un article de Lynn Girard en 2006 dans la revue québécoise de Gestalt qui s'appelle « La PGRO, une histoire de chant ». Et avec tristesse, à fin du séminaire théorico-clinique de Paris en 2006, parce que grand-papa est un peu fatigué de voyager, et ça se termine par une très jolie fête et avec avec passablement de regards humides et de promesses de se revoir, promesses tenues dans la plupart des cas. Et puis maintenant, je dirais depuis 2007, ce qu'on pourrait appeler une phase de maturité. Pour celle-là, j'ai eu du mal à trouver une image, parce que maturité, c'est pas loin de... Quand c'est mature, ça commence à faner, hein, en général, et peut-être à mourir. Alors, j'étais en questionnement et je vous suggère de considérer la maturité au sens où l'entend ce vénérable monsieur. Est-ce qu'il y en a qui le reconnaissent ou le connaissent? Erik Erikson, qui a écrit sur le développement continu au fil de toute une vie et qui parle de la maturité comme d'un moment qui effectivement peut être le prélude au flétrissement et à la mort, physiquement certainement, mais la maturité est aussi une occasion de générativité. C'est aussi le moment où ce qui a mûri et qui est arrivé à maturité peut, avec plus de sérénité qu'avant, parce qu'il y a un bon nombre de choses qui sont établies, peut diffuser ses fruits et faire profiter d'autres générations. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'intégration des neurosciences affectives. Ça, c'est quelque chose qui est en place avec nous depuis à peu près 2007. Je sais qu'ici, en France, il y a un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ça. Quand on a commencé à en parler, il y avait plutôt pas mal de résistance à l'idée d'utiliser les neurosciences affectives. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que des écrits sortent, traduction de Cosolino et autres, que ça commence à se faire une place. Également, la création d'un groupe qui s'appelle Neurogestalt, le R-O en majuscule n'est pas une faute de frappe, il renvoie à relation d'objets. Et ce groupe Neurogestalt est une entité concrète à l'intérieur de la Société internationale de neuropsychanalyse, et ça correspond en gros à un groupe qui est essentiellement un groupe québécois, mais auquel Cyril et Jean-François, entre autres, ont participé, un groupe qui examine les retombées des neurosciences affectives pour la pratique de la psychothérapie telle que nous la concevons. 2008, la traduction de l'ouvrage de Shore, « La régulation affective et la réparation du soi », et 2012, la traduction de l'ouvrage de Cosolino par Marie-Pascale Martorell et Suzanne Markel, qui n'est pas arrivée, je crois. Si, elle est là. Où était? Où es-tu? Où es-tu? Ah, salut! Un moment important, 2008, Marc-Simon Drouin, qui est l'un de nos superviseurs didacticiens et directeur du département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal, écrit un texte fondamental dont je vous recommande la lecture, « La psychothérapie gestaltiste des relations d'objets et les données probantes ». Si, comme c'est le cas en Amérique et dans le monde anglo-américain en général, vous êtes confronté, exposé au sommet de fournir des preuves probantes de l'efficacité de ce que vous faites, je vous suggère de commencer par ce texte-là, qui pose clairement les jalons d'efficacité et de probité probante de la PGRO. En 2009, journée d'études à Montréal, une seule journée avec quelques présentations de Français, mais surtout des présentations de Québécois. Depuis 2007, un bon nombre de thèses doctorales ont été ou sont en train d'être écrites sur la PGRO. Donc, de plus en plus, on approfondit des zones restées incomplètes dans la théorie d'origine. 2012, publication par Lynn Girard et moi-même de « La psychothérapie du lien », livre dans lequel vous trouvez un bon nombre de chapitres écrits par des auteurs invités, d'autres PGRistes, sur toute une série de thèmes allant de l'herméneutique à la thérapie du couple avec Michel Dandeneau, thérapie de court terme et le reste. Et je le disais tout à l'heure, nous avons donc, au moment où on se parle, plus de 60 superviseurs didacticiens entre le Québec et la France. Je parle de ceux qui sont formés au CIG. Il y en a certainement d'autres qui ont été formés ici. Et puis, le dernier événement important, en 2009, Lynn Girard prend la direction du CIG, ce qui fait que Gilles n'est pas à la retraite, mais je ne dirige plus le CIG. Je dirige... je ne sais pas quoi. Bien, alors, histoire brève de, en gros, 25 années de voyage, de découverte. Et ça donne quoi aujourd'hui? Alors, qu'est-ce donc que la PGRO? C'est pas simple de résumer ce qu'est la PGRO, tant c'est une théorie complexe. Je dis souvent que la PGRO est un système thérapeutique utopique. Je ne connais personne, à commencer par celui qui vous parle, qui soit capable de mobiliser dans une intervention l'ensemble de ces outils-là. C'est une théorie utopique au sens où elle fournit une direction, mais elle ne donne pas de programme. Elle n'est pas manuelisée. Elle ne nous dit pas ce qu'on doit faire ce jour-ci, ce jour-là, première rencontre, deuxième rencontre, mais elle nous dit en général vers quelle direction on pourrait cheminer. Mais essentiellement, si on voulait résumer en quelques lignes, mais ça fera quand même plusieurs mots, on peut dire de la PGRO que c'est un système thérapeutique intégratif, herméneutique et multiréférentiel. Plutôt que quoi? Intégratif plutôt que unimodal. Donc, nous avons ici gestalt expérientiel et compréhension des trajectoires développementales de la théorie psychanalytique des relations d'objets et théorie de la régulation affective avec les neurosciences affectives à la Shore et Cozzolino. Donc, intégratif. Herméneutique, ça veut dire que c'est une approche qui s'intéresse au sens. Le sens de l'expérience, c'est une approche selon laquelle le changement durable repose sur l'examen et la construction solide du sens de l'expérience. Multiréférentiel, c'est dire que le PGRiste est ouvert à diverses modalités de lecture et de compréhension des situations cliniques dans lesquelles il est plongé. C'est une approche qui conçoit les pathologies de la personnalité comme autant de perturbations développementales multifactorielles autour de trois grands enjeux développementaux. L'attachement, l'estime de soi et la tension fertile entre éros et éthos. Donc, nous concevons que les pathologies de la personnalité résultent d'un arrêt ou d'une aberration dans la maturation de l'un ou l'autre de ces trois chantiers développementaux. Et qui va traiter ces pathologies-là dans le cadre d'une relation thérapeutique tridimensionnelle où se conjugue le repérage des reproductions dans divers champs expérientiels, la reconnaissance de leurs affinités thématiques et de leurs structures et leur réparation interactive par voie de parachèvement de l'enjeu développemental jusque-là inachevé. Je vous mets au défi de vous en souvenir. J'ai voulu essayer de résumer sur une diapo l'essentiel de la chose. Vous êtes en train de l'écrire? Je vais vous montrer quelques schémas qui vont être peut-être plus faciles. Voilà. Quand je vous disais qu'elle était complexe et utopique, combien reconnaissent ce schéma-là? Levez donc la main. OK. Combien ne l'ont jamais vu? OK. Il me reste 15 minutes. OK. On va essayer de vous présenter ça sommairement, mais clairement. Je viens d'évoquer que le développement, nous le concevons comme étant le fait de franchir des chantiers développementaux successifs, l'attachement, en gros, jusqu'à de la naissance à l'apparition du langage. L'estime de soi, en gros, de l'apparition du langage jusqu'à la période pubère édipienne, si vous voulez, et Eros, Ethos, à partir de là pour le reste de l'existence, et d'autres enjeux. De quel équipement disposons-nous pour résoudre les énigmes que nous pose chacun de ces chantiers-là? Nous sommes toujours un organisme psychophysiologique, neurologique, neurodynamique, qui vit dans un environnement X. Ce n'est pas très clair à l'écran, mais ici, vous avez facteur de risque et facteur de résilience. L'organisme, chacun de nos organismes, est porteur de facteurs de risque et de facteurs de résilience. Avoir un tempérament prompt à la colère, c'est un facteur de risque dans certains environnements, mais de résilience dans d'autres environnements. D'accord? Notre environnement lui-même est porteur de facteurs de risque et de facteurs de résilience. Avoir une mère dépressive parce que papa est mort dans un accident de voiture alors qu'elle était enceinte de 8 mois, c'est un sérieux facteur de risque sur le plan de l'attachement. Mais avoir une famille étendue qui prend la relève et qui vient soigner maman, et si maman réagit bien au traitement, c'est un excellent facteur de résilience. Nous posons les choses de cette manière-là pour sortir du très pesant héritage d'une psychanalyse déterministe qui nous lègue une sorte de réflexe suivant lequel on peut trouver la raison pour laquelle la personne est narcissique. Mais il n'y a pas une raison. Il y en a plusieurs et on pourrait se demander pourquoi a-t-elle développé une pathologie de la personnalité qui s'appelle la pathologie narcissique? Mais inversement, on pourrait aussi se demander pourquoi n'est-elle pas devenue psychotique? Ça aurait pu être pire. Donc, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Bien. Avec cet équipement-là, on traverse nos chantiers développementaux. Et si il se trouve qu'au total, l'organisme et l'environnement présentent une somme de facteurs de résilience plus grande que la somme des facteurs de risque, il en résulte une personnalité normale ou saine. Si toutefois la somme des facteurs de risque, environnement et organisme, l'emporte largement, vous ne le voyez pas ici, sur les facteurs de résilience, il en résulte une personnalité pathologique. Vous avez ici la classification DSM. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on conçoit comme PGRiste, on se dit, je reçois en consultation une personne, disons, limite. Personnalité limite. Ça ne me dit pas grand-chose. Ce que j'ai besoin de savoir, d'abord, je conçois que ça, c'est un trouble, c'est un problème, mais c'est aussi une solution à un autre problème. C'est une solution à un problème développemental. Ceci s'est installé pour pallier l'insuffisance de sécurité sur le plan de l'attachement, un déséquilibre narcissique, et un manque de résolution de la tension Eros-Ethos. Et j'ai besoin d'écouter le client, le patient, pour construire avec lui ou avec elle le sens de cet ajustement conservateur, diraient les gestaltistes, mais peut-être créateur. Ça aurait pu être pire. Alors, cette façon-là de voir les choses, on l'a exploré dans des ateliers sur l'attachement, sur le narcissisme et sur Eros Ethos. Voilà en gros comment nous concevons le développement normal versus pathologique. La PGRO a également une théorie du processus thérapeutique. Ça se passe comment? Ça se passe comme ceci. Nous allons traverser avec le client des cycles RRR, reproduction, reconnaissance, réparation. L'inachevé développemental, la personne n'a pas complété l'enjeu d'attachement. Elle a un attachement évitant, désorganisé, anxieux, ambivalent, où la personne n'a pas complété l'enjeu d'estime de soi. Elle a un déséquilibre narcissique. Cet inachevé développemental, nous concevons qu'il reste en tension et qu'il cherche à se compléter. Il cherche paradoxalement à se compléter à travers une série de reproductions. Je rencontrais il y a quelque temps une personne qui s'intéresse beaucoup aux problématiques narcissiques et qui mène une recherche de fond sur les problématiques narcissiques et qui s'est mise à me raconter les échecs de sa vie qui portaient dans la plupart des cas la marque d'un déséquilibre narcissique où elle reproduit cela même qu'à terme, elle va devoir déplorer. Et ce processus par lequel la personne remet en place ce qu'elle regrette et ce qu'elle voudrait voir changer, nous l'appelons la reproduction. En psychothérapie, nous allons travailler sur le sens de cette reproduction. Il doit y avoir possibilité pour la personne de saisir ce qu'elle met en place dans les impasses de sa vie actuelle. Et ce travail-là est un travail de dialogue herméneutique pour chercher à comprendre qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Vous allez avoir des exemples de ça avec chacun des présentateurs ou avec la plupart d'entre eux. Travail de reconnaissance. La réparation, c'est ce moment de la psychothérapie où le thérapeute et le client, conjointement, vont essayer de trouver une autre issue que celle à laquelle le client ou la cliente aboutit habituellement. Et ces cycles-là, il faut les refaire et les refaire et les refaire. Vous pouvez vous demander, si vous pratiquez la PGRO, jusqu'à quel point vous consacrez de l'énergie à la reconnaissance, jusqu'à quel point vous consacrez de l'énergie à la réparation, jusqu'à quel point vous repérez les reproductions. C'est déjà un premier critère de validité. Vous allez entendre parler au cours des deux jours qui viennent de champs expérientiels. Champ expérientiel, quand on vous dira champ 4, ça renvoie aux relations significatives du passé développemental. Quand on parlera de champ 3, ça parle de l'ensemble des relations significatives de la vie actuelle. Champ 1, l'ici et maintenant de la relation thérapeutique. Et le champ 2, l'histoire de la relation thérapeutique. Pour présenter ça, habituellement, on prend à peu près 2 heures. Alors, je vous dis ça vraiment très sommairement, quelle est l'utilité de ces différents champs-là. Et puis, pour chacun de ces champs, vous allez avoir besoin de ce concept-là, en particulier pour bien saisir ce dont vont vous parler Alain Mercier et Claire Paillard, pour comprendre le concept de mentalisation. Chacun de ces champs-là se scinde en deux. Un champ externe, c'est-à-dire ce qui pourrait ou aurait pu être observé par un tiers raisonnable et de bonne foi. Et un champ interne, c'est-à-dire la résonance interne, les représentations, les affects qui accompagnent l'expérience. En gros, si on résume ce qu'on entend par PGRO, une approche intégrative, dialogale, qui conçoit la pathologie comme un arrêt développemental de jadis. Cet arrêt développemental concerne l'attachement, l'estime de soi ou eros ethos. Nous nous proposons de rétablir le meilleur état de santé en revisitant ce qui est inachevé, en faisant sens de l'inachevé et en trouvant des façons dans la relation thérapeutique de compléter ça. Voilà de manière très sommaire ce que je peux dire sur la PGRO telle qu'elle se présente maintenant. Ce qui nous amène ici au matin du 29 août 2014. Vous allez être exposé à 2 journées d'échange, de réflexion et d'exploration. Et je salue tout de suite les 12 PGRistes de très haut niveau, qui sont tous des diplômés du 3e cycle du CIG. Je les salue tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure l'affection que j'ai pour eux. Je la réitère. la connaissance intime que j'ai d'une partie de leur vie, mais je salue aussi leur courage, leur intégrité, car j'imagine qu'il n'est pas nécessairement facile de présenter des innovations cliniques et théoriques en présence des personnes qui ont créé l'approche. Et ils n'ont pas besoin que je leur dise ça s'ils me connaissent bien, et je pense qu'ils me connaissent bien. J'accueille avec enthousiasme ces propositions-là parce que la PGRO n'est pas un objet de musée, mais un organisme vivant qui doit continuer de se développer, et elle ne peut se développer qu'avec la qualité de réflexion des personnes qui la font vivre au quotidien. Ces gens-là ont développé leur propre zone d'influence et d'excellence. Savourons ensemble pendant 2 jours nos liens d'attachement. L'une des choses que j'aime de la PGRO, c'est l'espèce de chaleur sincère qui se dégage à chaque fois qu'on réunit des groupes de personnes comme ceux-ci. Et vous savez que je le fais souvent, j'ai souvent donné des séminaires à Paris, j'en donne bien entendu à Montréal. Mon plus grand plaisir, c'est de voir des personnes que j'ai formées à différents moments, dans différents contextes, développer des liens d'une grande solidité, entretenir des correspondances 20 années plus tard, vouloir contribuer à l'approche. Pour moi, ça parle de l'attachement qui vient avec la PGRO. Je pense que la PGRO a maintenant suffisamment de sécurité dans son identité pour être capable d'explorer et de questionner ses façons de faire. Donc, savourons nos liens d'attachement. Cultivons dans la réciprocité une juste estime de nos ressources. On parle d'estime de soi. Une juste estime de nos ressources, ça veut dire quoi, ça? C'est tout sauf l'éloge vide. C'est le merci pour cette chose que vous venez, monsieur ou madame la conférencière, de nous communiquer. C'est aussi la capacité d'apprécier la singularité de chacun des conférenciers dans ce qu'ils auront développé comme champ d'intérêt qui est tout à fait à eux. Donc, on parle d'attachement, d'estime de soi. Kéros nous énergise et Kétos nous balise. 2 jours, donc, que je souhaite libérés de toute orthodoxie, capables de foncer courageusement dans les imperfections de notre approche, de les mettre à jour et de les corriger. 2 jours, donc, de conversation dans le cadre d'une véritable éthique de la conversation théorique. Je vous souhaite 2 excellentes journées et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine formation.